VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Conakry, 14h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. Au Mozambique, le président Philippe Nyusi et le chef de l'ex-mouvement rebelle de la RENAMO, Ossoufo Momade, ont signé ce jeudi un accord de paix historique destiné à mettre fin à des décennies de conflits entre le pouvoir et la formation rebelle devenue principal parti d'opposition. La cérémonie retransmise par la chaîne de télévision nationale s'est déroulée dans le bastion de la RENAMO dans la région montagneuse de Gorongosa dans le centre du pays, 27 ans après la fin de la première guerre civile. La lutte contre les djihadistes dans le Sahel, maintenant des combats intenses entre les combattants de la faction de Boko Haram ayant fait allégeance au groupe État islamique et une force régionale regroupant les militaires du Tchad, du Cameroun, du Niger et du Nigeria ont fait des dizaines de morts dans la région du lac Tchad. C'est ce qu'ont déclaré des sources sécuritaires à l'AFP. Selon ces sources, les djihadistes ont tué 20 soldats nigérians et 5 soldats tchadiens de ces violents affrontements qui ont fait également 47 morts du côté des terroristes. Ebola en République démocratique du Congo, les autorités congolaises ont déploré ce jeudi la décision unilatérale de Kigali de fermer la frontière du Rwanda avec la RDC au lendemain de la mort à Goma d'une deuxième victime de l'épidémie d'Ebola et la découverte d'un troisième cas dans ce grand carrefour commercial d'un à deux millions d'habitants situé à la frontière commune à proximité de la ville rwandaise de Gisenyi. Dans un communiqué de la présidence congolaise, Kinshasa note, et je cite, « sur décision unilatérale des autorités rwandaises, les citoyens rwandais ne peuvent pas sortir pour Goma, tandis que les Congolais, eux, peuvent sortir de Gisenyi, mais sont interdits d'y entrer. Cette décision préjudicie plusieurs Congolais expatriés qui vivent à Gisenyi, mais travaillent à Goma », affirme le communiqué de la présidence congolaise. Kinshasa souligne aussi que la fermeture de la frontière va à l'encontre de la recommandation de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, sur la libre circulation des personnes dans la région. Cela fait maintenant un an que l'épidémie d'Ebola a été déclarée dans l'est de la RDC et la mort du deuxième malade à Goma, chef-lieu du Nord Kivu, et la découverte de cas suspects au sud Kivu voisin augmente les craintes d'une propagation de l'Ebola au niveau régional, notamment à Bukavu, le chef-lieu du sud Kivu. Plus de détails avec Ekiabadou.
15 personnes, dont 7 venant de Goma, ont été mises en quarantaine à Birava, au nord du lac Kivu, à environ 30 km au nord de Bukavu. Hier, 5 bateaux en provenance de Goma ont été immobilisés dans le port de Bukavu. Chaque jour, plusieurs rotations de bateaux, certains transportant jusqu'à 500 passagers ainsi que des marchandises, relient Goma et Bukavu. C'est la première fois que des cas suspects ont été recensés dans le sud Kivu. Le deuxième malade signalé à Goma est décédé dans la nuit de mardi à mercredi, a indiqué le docteur Haruna Abedi, coordonnateur de la riposte contre Ebola dans la province du Nord Kivu. La victime, âgée de 46 ans et père de 10 enfants, s'était rendue en Ituri où il avait contracté le virus. L'apparition de ce cas à Goma, ville jumelle de Gisenyi au Rwanda, renforce la psychose et la menace des propagations de l'épidémie responsable de 1803 morts depuis un an.
Mouvement de contestation au Soudan, le général Jamal Omar, membre du Conseil de transition militaire au pouvoir depuis la destitution du président Omar al-Bashir en avril, a reconnu mercredi soir que des paramilitaires des forces de soutien rapide RSF sont responsables de la mort de 6 manifestants, dont 4 lycéens tués par balle lors d'un rassemblement lundi à Al-Obeid dans le centre du pays. Le général Omar a accusé les paramilitaires d'avoir tiré sur la foule lors de cette manifestation de protestation contre les pénuries de pain et de carburant à Al-Obeid, un incident qui a fait également plus de 60 blessés. Certains manifestants ont jeté des pierres sur les forces de sécurité et des paramilitaires ont réagi à titre individuel et tiré sur des protestataires, a souligné le général Omar. Les suspects ont été licenciés sur ordre du commandement des RSF. Ils ont été remis aux autorités locales et seront jugés, a indiqué l'agence soudanaise officielle Souna, sans préciser leur nombre.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Actualité américaine, course à la présidence des États-Unis côté opposition démocrate. Le favori de la primaire démocrate Joe Biden a essuyé de vives attaques mercredi soir lors du second débat avec ses rivaux qui ont passé au crible ses positions passées sur l'immigration ou la politique pénale pendant sa longue carrière. Le point avec Jean-Roger Bion.
L'ancien vice-président de Barack Obama s'est montré cette fois plus incisif face à l'assaut en règle de ses concurrents. C'est même lui qui a attaqué en premier une de ses principales rivales, Kamala Harris, sur ses propositions en matière de couverture maladie. Soyons francs, vous ne pourrez pas battre Donald Trump avec un double discours sur ce plan, lui a-t-il lancé. La sénatrice noire lui a rendu l'appareil en revenant sur le sujet qui avait été au cœur de leur premier affrontement, à savoir ses relations passées avec des ségrégationnistes. Mais elle n'est pas non plus sortie indemne du débat, les pics ayant fusé dans toutes les directions. La députée Tulsi Gabbard lui a reproché d'avoir, en tant que procureur général de Californie, fait emprisonner 1500 personnes pour des délits liés à la marijuana et d'avoir conservé un système de liberté sous caution injuste pour les plus pauvres. Pour en revenir à Joe Biden, le sénateur noir Cory Booker a reproché aux vétérans de la politique américaine d'avoir mis son nom sur toutes les lois pénales depuis les années 70, responsable de l'incarcération de millions d'Américains. Joe Biden a également été étrié pour son refus de dépénaliser les entrées clandestines aux États-Unis, à la frontière mexicaine en particulier. Le prochain débat est prévu à la mi-septembre avec des règles plus strictes de participation. Seule une dizaine de candidats devraient se qualifier. Le premier vote de la primaire démocrate aura lieu dans le petit État de l'Iowa. Ce sera le 3 février 2020.
Chaque année, selon l'ONG Plan International, plus de 12 millions de filles sont mariées de force avant l'âge de 18 ans. Dans les pays en développement, c'est le cas pour une fille sur 5. Des filles qui voient alors leur droit à l'enfance et à l'éducation volés et leurs perspectives d'avenir et d'évolution limitées. Ainsi, des générations successives de jeunes filles sont maintenues dans des conditions de pauvreté et d'impuissance par les mariages forcés et précoces. Nous ouvrons notre série sur ce sujet avec le cas de Mwan Hamsi de la Tanzanie, récit de Salwa Jafari.
Un soir, ma mère m'a dit « quelqu'un cherche une domestique ». Je lui ai dit que je n'étais pas intéressée. Plus tard, maman m'a dit que quelqu'un avait proposé de m'épouser. Elle a dit que l'homme était une bonne personne et qu'il était jeune. Mais j'ai dit non, j'ai pleuré. Ma grand-mère m'a dit qu'elle avait essayé de dissuader ma mère de me marier, parce qu'à 14 ans, j'étais encore trop jeune. Ma grand-mère a dit que je devrais aller dans un pensionnat pour études religieuses. Maman s'est fâchée contre ma grand-mère parce qu'elle me soutenait dans mon désir de ne pas me marier. Il n'y avait pas de doute, ma mère était prête à me donner en mariage. J'ai pleuré pendant des jours. Je suis allée à une cérémonie de remise de diplôme dans une école primaire où quelqu'un a annoncé que n'importe quelle fille en situation de mariage forcé devrait contacter la police. J'ai écrit le numéro. Grand-mère m'a donné un téléphone portable pour communiquer avec le futur marié. J'ai enregistré ses numéros de contact. J'ai appelé la police qui a demandé le nom du marié et la date du mariage. Ma mère ne voulait pas me donner la date du mariage ou le nom de l'époux. Elle m'a dit que ça ne me regardait pas. La nuit avant le mariage, un responsable local est venu chez nous pour me demander si je voulais me marier. Quand j'ai dit non, il a interrompu la cérémonie. J'ai commencé à étudier le textile dans un centre. Ensuite, une assistante sociale m'a transférée au centre Kiwo Hede de Dar es Salaam. Mon rêve est de devenir une grande créatrice de mode.
Merci, Salwa Jafari. Merci d'écouter aussi La Voix de l'Amérique. Plus de détails sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.